Vous écoutez France Culture. Les lundis d'histoire, Michel Perrault, bonjour. Nos sociétés d'abondance, dites de consommation, avaient cru éradiquer la pauvreté et vaincre la misère. Il n'en est rien. Les SDF hantent les métros et les rues, les sans-papiers vivent tant bien que mal dans des hôtels meublés vulnérables. Le long des périphériques se dissimulent les abris de populations précaires, souvent venues des pays de l'Est. Bref, la question sociale nous assaille, y compris sous les formes plus banales, partagées, de pouvoir d'achat et de crise du logement. La question sociale est génératrice d'enquêtes, animées par une volonté de savoir pour contrôler et réformer. Quels que soient leurs défauts et leurs limites, ces enquêtes nous livrent des fragments de vie, des bribes de paroles, précieux pour la connaissance des classes populaires et celle de leur perception. Trois livres nous rappellent cette histoire d'hier et d'aujourd'hui, et je vous les présente d'emblée. Anne Lhuissier, Alimentation populaire et réforme sociale, Les consommations ouvrières dans le second 19e siècle, paru à la Maison des sciences de l'homme en 2007. Anne Lhuissier, vous êtes chercheuse à l'INRA et on va tout de suite parler de votre livre. Isabelle Lespinet-Moret, L'Office du travail, 1891-1914, La République et la réforme sociale, livre paru aux presses universitaires de Rennes en 2007. Isabelle, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 10 Nanterre. Jean-François Lahaye, Les nuits de la main courante, Écritures au travail, Paris, Stock 2008, vous êtes professeur de sociologie à l'université de Paris 8 Saint-Denis. L'occasion de parler ici. Jean-François Lahaye, vous pénétrez dans la nuit, hein, parce que vous êtes professeur de sociologie à l'université de Paris 8 Saint-Denis. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont notamment sur la pauvreté, plusieurs fois en collaboration, je pense, et souvent tout seul, bien sûr, et je pense à un de vos tout premiers, qui s'appelle « L'argent des pauvres, la vie quotidienne en cité de transit », qui est paru au Seuil en 1985, et qui est également en collaboration avec Numa Murat, avec Arlette Farche, « Fracture sociale » en 2000, avec Philippe Artière, « Lettres perdues ». Vous aimez bien aussi collaborer avec des historiens. Mais ce livre-là, c'est le vôtre. Et il s'appelle « Les nuits de la main courante, écriture au travail » et vient de paraître chez Stock. Alors, quel a été votre projet dans ce livre-là? D'abord, qu'est-ce que c'est que les mains courantes? Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez voulu faire.
Les mains courantes, c'est un espace disponible dans tous les commissariats, dans toutes les gendarmeries, où tout citoyen peut déposer des informations, des différends dans l'espace familial, dans le quartier, dans un bar, en voiture. Donc c'est un espèce de dépôt qui n'a pas de statut fort juridique et surtout judiciaire. C'est sans statut judiciaire, mais qui recueille énormément d'informations. Ce qui caractérise la main courante, et c'est pour ça que cette idée me plaît, c'est le damier, hein, c'est le grand cahier avec des lignes droites, à gauche, droite, des informations, des cases, des damiers, et le temps s'écoule au fur et à mesure, comme ça. Et donc, par extension, je me suis dit que les cahiers d'information, de retransmission, les cahiers infirmiers, les cahiers de liaison, ce qu'on appelle les journaliers, sont fabriqués de la même manière dans beaucoup d'institutions. Hein, donc des institutions comme l'hôpital, centre d'hébergement, accueil d'handicapés ou cahiers de visite à domicile. Oui. Donc c'est plutôt une image comme ça qui vient à l'esprit.
Oui, autrement dit, vous avez un peu étendu le sens de main courante. Vous l'avez pris dans un sens assez global, parce que ces papiers-là, ils ne sont pas destinés à la publicité.
Tout à fait. Par rapport à l'argent des pauvres et aux enquêtes antérieures, où c'était des observations, des entretiens, des prises de parole, beaucoup de paroles, là, il y a un pari autre qui est « je n'écoute plus ce qu'on me dit, je vais aller chercher les traces écrites dans les institutions. » Au jour le jour. Et donc, leur caractéristique, c'est qu'elles ne nous sont pas adressées. Ces mains courantes, ces écritures ne nous regardent pas. Elles sont écrites dans un entre-nous professionnel, à 4, à 5, à 6. 3, il n'y a pas de récit à l'intérieur. Ce sont des notations, des bribes, des morceaux, des éclats, des petits bouts. 4, c'est très codé. On ne comprend pas grand-chose au langage codé implicite des professionnels entre eux. Et 5, c'est vraiment logé dans l'action. C'est-à-dire, c'est au jour le jour, la nuit, à telle heure, dans telle chambre, dans tel couloir, à telle sortie, dans telle famille. Donc c'est une espèce de tournée, comme une tournée de facteurs, mais là c'est une tournée d'étage, tournée de chambre, tournée dans une famille, tournée autour d'un patient. Et on informe, on écrit ce que l'on fait, comment le corps réagit, comment cette relation est plus ou moins difficile. Et donc ce sont des notations qu'il faut évidemment déchiffrer.
Il y en a beaucoup d'exemples dans votre livre, juste comme ça au passage, dans un centre d'hébergement sur lequel on va revenir. 21h, je viens d'apprendre par un SDF qui est venu demander un repas à la cuisine qu'il y a un mois, des barquettes de nourriture étaient vendues 2 euros. Il n'a pas voulu en dire plus, mais là, franchement, c'est plus que de l'abus. 23h, appel de la police. Pouvez-vous prendre 2 personnes ? 1h. Je trouve 2 femmes dans les toilettes. Une lit, l'autre rêvasse. La dernière cuvée n'est pas franchement de tourpeau. 2h. Un pauvre air nous demande asile pour la nuit. Nous l'acceptons. 3h. J'oubliais le plus important. Nous avons un hébergé de marque ce soir. Marion T. en personne. Mine épanouie, écharpe bleue. Je ne lui laisse aucune chance de discuter, mais nous l'avons tous revu avec plaisir. 5h. Je fais une ronde, j'ai les paupières lourdes, je me rends compte que le lit 6 a dormi avec ses habits et ses chaussures. 7h, distribution des tickets de bus, un chacun. 8h, Jean nous informe de la présence d'un flic parmi les hébergés. Nous n'avons pas son numéro de lit, mais Joël peut l'identifier.
Cette écriture-là est très intéressante parce qu'elle est à double niveau. D'une part, elle nous informe sur ce qui se passe du point de vue de celui qui écrit, en même temps, celui qui écrit parle de lui-même, parle de ses émotions, parle de l'insupportabilité. Et il peut le faire parce que c'est une écriture entre nous. On va être que 4 ou 5 à l'intérieur du centre à le lire. Donc on peut lâcher et donner ses émotions. Et en même temps, l'écriture est une espèce de pare-émotion, c'est-à-dire de pare-choc à l'émotion. C'est-à-dire par moments, les professionnels sont fatigués. La relation de service, la relation d'aide est une relation bien plus difficile qu'on le raconte. Et donc, l'écriture est aussi un lieu de dépôt de soi, mais de dépôt de fort intérieur professionnel, en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire, les professionnels entre eux peuvent se dire entre eux. Oui. Ce qui est insupportable dans le service, à l'étage, l'été, l'hiver, à telle ou telle période, le samedi, le dimanche, et évidemment la nuit.
Oui. Mais Jean-François Lahaye, ce sont des papiers, j'allais dire, confidentiels. Comment est-ce que vous avez fait pour y avoir accès ? Et est-ce que les gens en question étaient contents, mécontents, réticents, enfin comment ça se passe pour
avoir accès
à ces papiers assez...
Ces documents sont souvent dans les bureaux des professionnels, ils sont activés et importants pour les professionnels dans la journée, dans la semaine, pour 15 jours, 3 semaines, et ensuite, au bout de quelques mois, ça va en bas des armoires. Donc en bas de toute armoire dans ces lieux, vous avez des cahiers qui sont là. Le destin de ces cahiers, c'est quand il y en a 10 ou 15, c'est... On ne va pas archiver ça, c'est des brouillons, c'est entre nous, et très souvent, c'est la poubelle.
Ah oui, c'est la benne. C'est pas archivé
parce que c'est vraiment des écritures codées et entre nous et qui vraiment est à toutes fins utiles pour l'action. Et ensuite, ces cahiers perdent complètement de leur importance. Donc il y a des professionnels qui les donnent aisément au bout d'un an ou deux. Ceux d'il y a 3 ans, je peux te les confier parce que pour nous, ça n'a plus aucune importance.
Oui.
D'autres acceptent de donner des extraits. Une des mains courantes a été trouvée au puce à Bruxelles par hasard. Et souvent, les professionnels, non, il me faut 2-3 mois pour arriver à convaincre des professionnels à me confier oui. un cahier.
Donc, mais ce qu'il y a, Jean-François Lahaye, c'est que vous êtes un familier de ces lieux. Oui. Ça fait longtemps. J'ai cité votre oui. livre de 85, c'est oui. déjà. Bon, et donc, vous dites quelque part que ce sont vos souterrains et oui. que vous pensez qu'on ne peut comprendre la réalité sociale qu'en allant dans les souterrains. Donc c'est une démarche qui vous est propre, à vous oui. et à quelques autres. Et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus de ça.
Oui, c'est vrai qu'il y a un fil continu entre l'ensemble des ouvrages. C'est cette idée de souterrain, de l'ombre, de l'action qui est donnée dans les comptes rendus, l'action qui est donnée dans l'affichage, l'action qui est donnée dans les mémoires, etc. C'est un morceau réel de l'action, mais en dessous, il y a les contacts quotidiens, les relations ordinaires, et dans ces relations de service, dans cette relation à autrui, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ce sont des relations aussi corporelles, ce sont des relations affectives, ce sont des relations coûteuses, ce sont des relations dissymétriques, ce sont des relations qui ont un coût moral. Et donc, il faut trouver des façons de résister à ce choc, à ce pare-choc. Oui. Et donc, j'ai toujours pensé que, oui, où que j'aille enquêter, je m'intéresse souvent au souterrain, à la cave, où sont les archives. Oui. Souvent, les archives sont abandonnées. Et je leur demande, est-ce que je. Mais on me dissuade d'aller dans les archives parce qu'on me dit, il n'y a rien, vous ne trouvez, il n'y a rien d'intéressant. Je leur dis, mais j'aime bien quand il n'y a rien. Oui. Alors les gens me regardent d'un air un peu étrange, mais je leur dis, s'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps. Voilà. Et donc les gens acceptent plus ou moins au fil du temps.
Et est-ce qu'il y a chez eux un sentiment de valorisation peut-être pas dit comme ça, mais le fait que vous vous intéressiez à ça, quel effet ça a sur eux?
Ben, c'est-à-dire qu'après coup, les gens réalisent qu'effectivement, ils regardent leur écriture autrement. Enfin, ils se disent mais oui, c'est vrai. Dans une maternité, j'ai pris une centaine de photos sur toutes les écritures sur les murs, dans tous les bureaux et dans toutes les salles.
Écritures sur les murs, c'est-à-dire
ben, toutes les consignes, les formules, les attention, les traits rouges, les verts, en cas de besoin. Et il y a plein de modes d'emploi, il y a plein de connaissances. Et je leur ai projeté, j'ai projeté ça à des professionnels qui se sont dit, mais oui, c'est bien chez nous. Oui,
c'est nous.
Nous sommes entourés d'écritures comme ça, et on ne voit pas qu'on est tapissé d'écritures. Donc les professionnels découvrent qu'ils vivent dans des tapisseries d'écriture.
Qu'ils fabriquent parfois eux-mêmes.
Qu'ils fabriquent parfois
eux-mêmes.
Mais que, c'est très intéressant de comprendre que là où on est, on ne voit pas où on est. C'est quand même très important de. Quand on agit en relation avec autrui, quand on agit, on ne se. On ne regarde pas complètement en train d'agir et par quoi on est encadré.
Oui,
donc c'est
oui.
vrai que le regard extérieur aide. Oui. Et le travail d'écriture et l'écriture du travail. Oui, discuter de l'écriture au travail et comment l'écriture forme l'événement et comment l'écriture confectionne l'événement, c'est très intéressant pour nous chercheurs et bien sûr pour les professionnels.
Autrement dit, dans votre livre, il y a plusieurs choses. Il y a ce que révèlent ces mains courantes sur le social, le dénuement. Il y a des choses sur les professionnels qui sont des gens au fond du contact. Et puis, il y a toute une réflexion sur les écritures ordinaires, comme dirait Daniel Fabre. Enfin,
tout à fait.
Et ça, c'est très important. Les lieux que vous avez choisis, j'aimerais bien qu'on en voit quelques-uns. Il y a, par exemple, le gardien d'immeuble. Alors ça, je trouve ça formidable comme choix, parce que le gardien d'immeuble, la cage d'escalier... pouvez-vous nous en parler un petit peu?
C'est très étonnant. On ne se rend pas compte à quel point un gardien dans une cité HLM ordinaire, tout à fait ordinaire, d'une part, très souvent, il vit sur place. D'autre part, il connaît très bien les gens. Imaginez, il distribue les courriers des gens pendant une année. Quand vous regardez le courrier de quelqu'un pendant une année, vous avez une source d'information incroyable sur le destinataire des courriers. Ensuite, il fait ses tournées le matin, il fait ses tournées l'après-midi, il fait ses tournées le soir des poubelles à 19h, 20h. Il entend les résonances. Et donc, il est logé dans l'intimité d'une centaine, 200 familles. Et donc, il a intérêt à être comme une tombe, se taire,
maîtriser. Trop d'ennui.
Voilà. Et son gros problème, c'est de maîtriser l'information, de contrôler l'information et de ne pas lâcher l'information à n'importe qui, à n'importe quand, à n'importe quel moment, etc. Donc, c'est une pièce maîtresse du contrôle de l'information dans des lieux HLM ordinaires. Et ça, on ne le pense pas. Pas souvent. On pense qu'il y a une distance, que le gardien, c'est une autorité, un représentant des HLM. Oui. Mais pas du tout. Il a plein d'écritures. Son bureau est couvert de papier, de documents écrits qui ne mangent pas de pain. C'est du rien. Tout le monde vous dira, mais c'est rien du tout. C'est de la bureaucratie. Mais non, ce n'est pas que de la bureaucratie. Oui, il y a des notations sur les mamans, le paquet de madame qui est là depuis 3 jours, donc madame n'est pas là. Mais comme ça. Les noms sur les boîtes aux lettres, il y a 2 noms, il y a 3 noms. Il y a 4 ans, il n'y a plus que 3 noms. Qui est parti, qui est venu.
Oui, alors, est-ce que ce gardien d'immeuble est aimé de... Il va être dans une situation un peu particulière. Juste au passage, comme ça, il y a un très beau travail qui a été fait par Jean-Louis Daucourt sur les concierges à Paris au 19e siècle, et qui est un peu, j'allais dire, votre ancêtre. Enfin, il a étudié comment ça fonctionnait, les loges de concierges. Et les pipelets n'étaient pas très aimés au 19e. Ils étaient considérés comme un peu le regard, comme ça.
Regard. Il est aimé quand on en a besoin, et souvent les gens en ont besoin. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour réparer la porte, la clenche, pour réparer les lampes. On a besoin de lui. Et pour lui confier les clés à tel ou tel moment, est-ce qu'il peut bien garder le paquet malgré tout? Donc, il est aimé. Et en même temps, les gens essayent de creuser une distance.
Mais c'est l'ambiguïté de la position du gardien, comme l'ambiguïté jadis de la position du concierge, dit beaucoup de choses sur la société.
Tout à fait. Là, par exemple, le contrôle des chiens dangereux, le contrôle des adolescents, c'est très intéressant.
Tout à fait.
Parce qu'il est entre le commissariat, la gendarmerie et la population.
Oui, vous vouliez demander quelque chose.
Une petite anecdote. Pour l'office du travail, il y a des courriers qui sont envoyés aux ouvrières pour être enquêtés. Oui. Et il y a des concierges qui gardent les enveloppes chez elles parce qu'elles ne pensent pas qu'une ouvrière puisse recevoir une lettre du ministère du Travail.
Oui, c'était avant 14. Ils n'oseraient plus le faire.
Non.
Alors, il y a beaucoup d'autres lieux que vous étudiez, enfin dont vous avez regardé les mains courantes, un centre de cure pour les alcooliques. Oui. C'est passionnant, les activités thérapeutiques et le suivi. Oui. Et aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, les gens qui commencent et qui abandonnent.
Oui.
Et c'est considérable.
Hein. Oui. C'est pas le manger de tout à l'heure, c'est pas l'alimentation, mais c'est quand même de l'alimentation. Boire, bien boire, trop boire. Centre de cure, 21 jours, une trentaine d'hommes, une douzaine de professionnels autour d'eux. Oui. Et pendant 21 jours, les cahiers vont se remplir de... C'est le travail sur soi, travail sur la situation, comment raconter des morceaux de situation, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il ne dit pas, pourquoi sa femme a téléphoné, qu'est-ce qu'on peut lui répondre. On l'informe, non, ne lui dites pas, si, dites-lui. Là aussi, il y a tout un travail. Les écritures aident à contrôler l'information qui échappe sans arrêt. S'évapore sans arrêt, tout circule sans arrêt.
Alors, il y a aussi des centres éducatifs. Je ne sais pas si c'est pour le chapitre éducatif, mais une lettre, par exemple. C'est une jeune fille qui s'appelle, que vous appelez Fatia, à Madame Clara. « Ah, Madame Clara, voilà, je vous écris pour vous dire que j'en ai marre de rester chez moi, je ne peux plus supporter. Mes parents, mon frère, mes petites sœurs, ils sont tous contre moi. Ma mère, comme je vous le dis, me traite de pute. Mon frère aussi, il me dit « Va voir ton noir qui t'a baisé ». Mes petites sœurs rigolent, me disent « Bien fait quand on me tape ». Voilà, ça va faire 2 fois que je viens de fuguer. Je suis partie rue de la République sur le port de Marseille. Là-bas, j'ai rencontré des toxicomanes, des drogués. À cause d'eux, je travaille mal à l'école. J'ai laissé tomber l'école. Je pensais, quand j'étais à l'école, qu'est-ce qui se passera quand je vais rentrer chez moi? Je laisse tout tomber à cause de ça, à cause de tout ça. Le problème, j'en ai marre. Marre pourquoi? Vous ne me comprenez pas. Mettez-vous à la place de la personne. » Et ça continue pendant des pages. Voilà encore un exemple où, dans les archives des mains courantes, on trouve les gens.
Dans chaque main courante, dans chaque lieu d'écriture, dans chaque cahier de liaison, de retransmission, il y a des lettres. On a reçu des lettres du père, de la mère, des frères, des sœurs, de l'oncle, de la tante. On n'en parle jamais parce que les professionnels ne savent pas quoi faire de ces correspondances. Faut-il répondre? Peut-on répondre?
Que faire même? Là, dans ce cas-là, ils se demandent qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Et donc, ces lettres, elles vont à la fin du cahier. Et quand on demande aux professionnels, est-ce que vous recevez des lettres? Ils disent, non, ils ont oublié qu'ils ont reçu les lettres. Parce que, comme ils ne peuvent pas y répondre, c'est à la fin des deux. Dans beaucoup de dossiers, les dossiers médicaux, dans plein de dossiers, il y a beaucoup de cartes postales, de lettres. Et donc, c'est intéressant parce que ce qui est abandonné par les professionnels, c'est intéressant pour nous. Parce que, comment dire, ça nous permet de réfléchir sur toute la part impossible de ces métiers. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et donc, c'est douloureux. Et donc, c'est à la fin du cahier, quoi. Et donc, ça m'intrigue toujours, quoi. Si vous voulez, pour revenir à la question des souterrains.
Ça m'intrigue toujours. Dans quel souterrain êtes-vous aujourd'hui, Jean-François Lahaye?
Là, je suis dans des lettres reçues, dans toutes les lettres reçues par Martin Hirsch depuis un an. Depuis l'ouverture du Haut Commissariat, dont je perds le titre trop long. Et donc, on est avec deux étudiants et on essaye de réfléchir...
Il y a beaucoup de correspondances reçues.
Il y a 1000 lettres.
1000 lettres.
1000 lettres en moins d'une année. Donc c'est... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Mais est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce que ça aide à réfléchir? Est-ce que ça permet de voir? La main courante, elle est suscitée par ces écritures-là. C'est l'individu lui-même produit de l'écriture qui suscite de la main courante, qui suscite des exercices. Et des exercices professionnels. Donc c'est vraiment intéressant de prendre l'idée de l'exercice d'écriture comme un exercice au sens foucauldien. C'est-à-dire c'est vraiment des exercices que l'on répète tous les jours et que l'on reprend et que l'on essaye de traiter et qui agissent. Et c'est dans ce sens-là où ça me plaît beaucoup.
Souterrain de l'écriture, souterrain de la vie, de la vie sociale. Alors votre livre magnifique, Les nuits de la main courante, Écritures au travail, est paru chez Stock en 2008. La pauvreté est parmi nous, on le disait au début, mais on le voit à travers tout cela. Et je voudrais dire qu'il y a une collaboration entre une association très connue qui s'appelle ATD Carmonde et Sciences Po. Et il y aura 17, 18, 19 décembre un colloque sur la démocratie à l'épreuve de l'exclusion et de la pauvreté. J'espère bien que vous y serez, que vous pourrez en parler. Je voulais signaler aussi un livre publié sous la direction de Yves Cohen et d'autres sur Observer le travail, histoire, ethnographie, approche combinée, et c'est paru à l'École des hautes études. Et il y a toutes sortes d'informations qui rejoignent cela. Voilà. Eh bien, avec vous, nous avons vu à quel point l'enquête sociale était importante hier et aujourd'hui. Merci beaucoup à vous trois. Les lundis de l'histoire, vous étiez présentés ce matin par Michel Perrault, équipe de réalisation, Franck Lilin et Philippe Bredin. Au revoir.